Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi, un petit peu particulier aujourd'hui. On est en plein dans le sujet, malheureusement, puisqu'on va parler de l'Ukraine et de cette guerre improbable, hein, mais qui a eu lieu, malheureusement, et qui a toujours lieu. Donc, pour nous en parler, eh bien, on sera avec une Ukrainienne qui vit depuis longtemps en France, mais qui est née en Ukraine. Elle nous parlera d'elle, Olena Peter. On dit Peter ou Peter ?
Peter.
Peter, d'accord. Claudelette, bien sûr, qu'on connaît, président des deux AIP, et puis qui, même s'il n'a pas été encore en Ukraine, lui, il fait beaucoup pour l'Ukraine, il va nous l'expliquer. Et puis, bien sûr, l'incontournable père François Lefort, qui, lui, a déjà été en Ukraine, et il nous expliquera une anecdote, hein, puisqu'il a eu un petit souci en allant en Ukraine, mais bon, pas grave. Alors, on va peut-être commencer avec Olena. Olena, je vais vous demander de vous rapprocher du micro, voilà. Vous me dites, bonjour, vous me dites si je parle trop vite, par contre,
non, ça va.
Vous comprenez bien. Ouais. Bon, alors tout d'abord, comment on dit bonjour en ukrainien ?
Dobrý den.
C'est comme en russe ou pas ?
Non, c'est zdravstvuyte en russe.
Ah d'accord. Alors je pense que vous parlez le russe également ?
Ouais.
Mais vous ne le parlez pas par opposition ? Non ?
Non, les Russes, enfin.
Non, je parle avec les amis qui parlent qui le russe, je parle le russe. Oui, avec ma famille, je parle ukrainien.
D'accord.
Voilà.
Vous êtes arrivé en France quand, vous ?
La première fois, j'ai arrivé en 1999 pour le stage de 6 mois. Et après, je suis revenue en 2001.
Oui.
Et je suis restée.
D'accord. Vous avez quitté l'Ukraine, pourquoi ?
J'ai quitté pour travailler.
D'accord, parce qu'il n'y avait pas de travail en Ukraine.
Non, c'était un petit peu. On a eu le stage dans le milieu agricole.
D'accord.
Et après, les plusieurs stagiaires, ils nous avaient proposé faire le contrat des 2 ans pour un petit peu voir comment ça marche vraiment dans l'entreprise agricole. Et quand j'ai fait ces 2 ans, j'ai rencontré mon mari. Donc voilà, le vie fait que j'ai resté en France.
Très bien. Alors bon, moi j'ai eu la chance de connaître Kiev, mais il y a très très longtemps, hein, à la belle époque, là, qui était encore russe, hein, puisque c'était dans les années 60, c'était en 76, c'était pas dans les années, et donc une belle ville, hein,
ouais.
Bien sûr, maintenant, oui. Ça a dû beaucoup changer, certainement. Alors, bon, on va parler de ce qui se passe actuellement. Quand on est loin de chez soi, comment on réagit à ce qui se passe chez soi, cette guerre ?
Ben, on est choqué parce que je pense tout doucement, on a tous vu approcher. On ne croyait pas du tout que ça passera à l'acte, mais on voyait, on va dire, venir tout doucement. On y est peut-être. Après, quand on est loin, on est un petit peu, je pense, on est gêné parce que nous, on est à l'abri. Et c'est pour ça qu'on veut faire le maximum possible pour aider. Mais voilà, on est un petit peu à part. Je ne sais pas comment vous dire.
Oui, mais si on comprend.
C'est un petit peu...
Mais vous ne vivez pas.
On est toujours quelque chose, on n'est pas tranquille.
Voilà. Vous avez encore de la famille là-bas ?
Oui.
Oui, d'accord.
Ouais.
Oui, alors en plus, oui. Donc, et là où ça bagarre ou plutôt sur Kiev ?
Non, c'est le plus près de chez nous, c'est à 25 km. On a une grande ville qui a été bombardée plusieurs fois,
ouais.
Notamment semaine dernière, entre 8 et 12 missiles qui sont tombés. Donc, voilà. Mes parents, ils sont à la campagne, donc c'est plus tranquille. On sait très bien que les Russes, ils visent pour l'instant les grandes villes.
Oui.
Mais bon, après, il n'y a rien qui dit que ça ne va pas échapper. La missile, elle va tomber plus près, parce que 25 km, c'est rien.
Oui, c'est rien, voilà. Du tout. Bon, ben, on va en parler, hein, puisqu'on est avec des amis là qui... Alors, François, toi, on sait que... Tu parcours un peu le monde. L'Ukraine, tu y as été ?
J'y suis allé plusieurs fois parce que c'est un Ukrainien qui m'a appris à faire les anesthésies. Il s'appelle Slava. Slava, ça veut dire bravo pour l'Ukraine. Enfin,
Slava, ouais.
Slava. Il s'appelle camarade Slava et il m'a dit le 24 février, il faut que tu viennes. Ben, je dis, mais vous avez des très bons médecins, t'as pas besoin de moi. Il me dit, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que les gens voient tout de suite, dès le premier jour, qu'ils sont pas abandonnés.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, à la limite, c'est pas le médical qui était important, c'est montrer. Alors, on ne peut pas y aller par avion, je n'ai pas envie de me faire descendre par les avions russes. Alors j'y suis allé en bagnole et je suis allé cette fois-ci à Lviv et il n'a pas voulu que j'aille plus loin. Bon, il m'a interdit. Mais l'endroit où j'ai dormi la dernière nuit, il y a eu 39 morts le lendemain de mon départ. Donc, et même Lviv, il y a des endroits dangereux. Il n'y a rien de sûr quand on est dans une ville, comme on dit, en Ukraine. Et ce que j'ai constaté, enfin je pourrais raconter tous les détails de mon voyage, mais ce que j'ai constaté, c'est, je vais vous dire une chose, les Ukrainiens vont gagner. J'en suis certain. J'ai vu dans ma vie 9 guerres, c'est mon métier, je suis prêtre, mais médecin humanitaire, donc je vais dans des guerres au Sri Lanka, ou d'autres. J'étais le médecin du Polisario, etc. Eh bien, jamais, j'ai vu un peuple qui a... Le dernier enfant de 5 ans, il fabrique des trucs pour l'armée et des choses comme ça. Ils vont gagner, j'en suis certain.
On est la gnoc.
J'en suis certain, oui. J'ai jamais vu ça. Vraiment, ça m'épate. Et avec le sourire, et même les gens qui sont blessés ou tout ça, eh bien, et le peuple ukrainien... et du coup, Poutine a réussi une chose, c'est que, comme vous le disiez, même ceux qui parlent russe, maintenant, ils sont pour l'Ukraine. Alors qu'avant, ils votaient plutôt différemment. Il y avait les jaunes et les bleus. Et maintenant, ils sont à fond pour l'Ukraine. Donc, Poutine a réussi à unifier le peuple ukrainien plus que jamais. Et ça, c'est pour ça aussi qu'ils vont perdre la guerre tôt ou tard.
On espère le plus tôt possible.
Oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Hein, le dernier enfant de 5 ans vous dit... alors, j'ai ramené des gens et on a à Saint-Paul 3 familles ukrainiennes. Et mon rêve serait que toutes les gens de la région ukrainienne, on les rassemble une fois pour faire la fête, parce qu'il y en a un peu partout.
Oui,
et ça serait formidable, ça.
Il y a des familles sur Krapon, déjà.
Oui, il y en a sur Krapon, il y en a partout. Et on les rassemblerait pour faire la fête ukrainienne. Beaucoup de gens viendraient. Et ça serait... Parce que, attention, les Ukrainiens dansent très bien.
Alors, on va parler un petit peu avec Claude aussi. Alors, Claude aussi, bon, il vient souvent sur Radio Krapon, puisqu'il est président des deux AIP. Alors, j'arrive jamais à vous rappeler, ça veut dire...
Aide Action Internationale Pompier.
Voilà. C'est pour ça que je dis deux AIP, je ne m'en rappelle jamais. Alors, Claude, toi, tu n'as pas encore été en Ukraine, mais tu t'es beaucoup occupé de faire de la logistique, des transports vers l'Ukraine.
Tout à fait. Nous... on a travaillé avec un collectif qui se, disons, d'associations, dont une qui est en Normandie, qui s'appelle Pompiers Mission Humanitaire, une autre qui est à Limoges, qui s'appelle Pompiers Humanitaire International. Et dès le lendemain de la guerre, bon, on se connaît, on travaille ensemble depuis facilement une vingtaine d'années, donc on se connaît assez. On a dit, il faut faire quelque chose, quoi. On ne peut pas rester dans notre petit coin. On avait l'habitude de faire des convois humanitaires. Donc on a dit, on va faire quelque chose. Et en fin de semaine, on a lancé une opération pour récupérer des produits de première nécessité en espérant, je dis bien en espérant, pouvoir faire deux camions en Auvergne-Rhône-Alpes et un ou deux camions en Normandie, deux camions dans la région de Limoges. Il s'est avéré qu'en un week-end, on s'est retrouvé submergé de choses. On a été obligé, même au bout de 10 jours, on était parti pour 3 semaines de collecte, et on avait dit, 3 semaines, on aura nos camions tranquilles et tout, on aura fait quelque chose et tout. Et à la fin du week-end, on avait déjà l'équivalent de 4 semi-remorques en Auvergne-Rhône-Alpes. Et au total, pour Auvergne-Rhône-Alpes, on en est à 37 véhicules, des semis, qui sont partis. Généralement sur les pays frontaliers avec l'Ukraine, donc la Pologne, la Roumanie, l'Hongrie, la Moldavie, mais surtout on a, avec un transporteur de Sainte-Sigolène, Logistique 43, on a réussi à envoyer une dizaine de camions directement dans les hôpitaux d'Alviv. Et c'est vrai qu'actuellement on est plus sur cette recherche là de matériel médical concret. On travaille beaucoup avec les hôpitaux de Marseille et de la région parisienne. Et récemment, donc la semaine dernière, on a eu 6 camions qui ont déposé tout le matériel, donc des lits, du matériel de radiographie, des produits pour les de savon, des masques, tout ça et tout. Et à partir de l'hôpital principal de Lviv, bah, tout est réparti sur des hôpitaux périphériques et on essaie de les alimenter comme ça.
Vous avez des antennes là-bas hein?
Bah, on a des contacts avec des associations sur les pays qui juste l'Ukraine.
Frontalier.
Lviv maintenant, notre point de chute, c'est l'hôpital d'Lviv. Mais voilà, c'était une région du monde qu'on, à part il y a plusieurs années, lors des guerres de l'Est, donc en Bosnie, en Serbie, tout ça et tout, on était intervenu. Mais on n'avait pas vraiment de point de chute. Mais les points de chute, on les a trouvés très rapidement, hein, sachant qu'on a travaillé avec les associations qui sont reconnues, qu'on connaît. On est allé voir sur Internet si on pouvait leur faire confiance. Parce qu'envoyer 5 camions pleins de marchandises, c'était un peu à l'aveugle, quoi.
Ouais.
Et donc, jusqu'à présent, on touche du bois, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On a tous les produits qui sont partis de Haute-Loire, de la Drôme, du Rhône, partout, sont arrivés à bon port, ont été distribués.
Et alors, le transport, là, vous le payez ou c'est gratos ?
Non, on paye les transports.
D'accord.
Alors, les prix varient. Hein. On a commencé aux alentours de 7 500 €. Après, on est descendu jusqu'à 3 000 €, 2 000 € aussi, quelquefois. Parce que, bon, vu qu'on cumule avec des associations, on remplit pas, nous, un seul camion.
D'accord.
Donc on arrive avec d'autres, donc on se partage
les frais.
Le coût du transport.
Mais je peux témoigner qu'il n'y a pas de vol. Dans beaucoup de pays, quand il y a un camion qui arrive, la population arrive et la moitié est perdue.
Ouais.
Et ben là, il n'y a pas un comprimé d'aspirine qui disparaît. C'est ça qui est formidable en Ukraine. Il n'y a pas de vol. Et donc c'est
à l'hôpital, et après c'est les hôpitaux qui descendent dans les hôpitaux plus petits. Par exemple, là dans mon village, on a un petit l'hôpital un petit peu comme à Craponne, et là hier j'ai parlé avec une amie qui travaille là-bas, elle a les produits français.
D'accord.
Elle dit, voilà, j'ai quelques trucs, est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Parce que des fois, bon, c'est bien arrivé, mais des fois, ils ne trouvent pas, donc c'est bien que...
Il n'y a pas un comprimé qui disparaît. Le problème, c'est que ça n'a pas le même nom en Ukraine qu'en France. Et donc, pendant 3 jours, j'ai déchargé, c'est peut-être un de tes camions, j'ai déchargé les médicaments d'un camion et j'ai écrit le nom ukrainien, parce que Doliprane, ça ne se dit pas Doliprane en ukrainien. Et à cause de ça, ça aurait servi à rien. Ben, j'ai servi un petit peu à quelque chose pour qu'ils aient... Les médicaments n'ont pas le même nom, mais
il
y a des logiciels. Il y a
dedans,
des logiciels.
Voilà, mais c'est voilà. Le gagne tant des fois. Bon, elle était tombée bien, j'ai quelques produits,
oui.
Tu peux me dire, mais bien sûr, c'est pas chaque fois qu'il. Mais c'est vrai, ça va. Moi, j'ai un petit peu. Il y a une association sur Clermont qui s'appelle Qui France. Qui font aussi beaucoup, mais eux, ils vont plutôt, comme vous dites, le point de chute chez vous, c'est Lviv, et eux, c'est plutôt vers Poltava. Donc, il y a les bénévoles, il y a les chauffeurs ukrainiens qui viennent en Pologne ou à la frontière, qui les échargent,
ouais.
Et c'est les bénévoles de là-bas qui vont directement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il, comme Claude, il a dit, il y a plein, autant de monde qui participait, nous aussi bergers, en 24 heures, remplir le bus des 57 places, les marchandes, des produits aussi pour les hôpitaux, la nourriture, aussi les chaises roulantes, les béquilles, tout. Il y a, l'équipe des tiers qui est descendue avec plusieurs camionnettes qui... Voilà, à la fin, on a presque refusé. On disait allez-y dans l'autre collecte parce que nous, on était chargés. On a laissé juste 4 places derrière pour qu'on puisse s'asseoir quand même. Et voilà. Donc,
et vous êtes. Pardon ?
C'est du jamais vu.
Ah oui, d'accord.
C'est très bien.
Même pas le tsunami du 26 décembre 2004.
Ouais.
C'était loin, mais alors là, il y a eu beaucoup d'argent pour le tsunami. Mais. Autant de marchandises, de gens qui... Alors, il y a des gens qui ont fait leurs armoires, mais il y a aussi des gens qui sont allés dans les magasins,
ouais.
Qui ont acheté, qui nous ont amené des choses. Et moi, l'image que j'ai de cette collecte, ce sont les doudous. Les doudous, on sait tous que les doudous, c'est quand même pour les enfants, c'est le doudou. Quoi. Oui. Il y en a qui ont 25 ans, ils dorment encore avec leur doudou. Quoi. Mais,
c'est en France.
Ça, c'est en France. Ça, c'est en France. Mais la chose, c'est qu'on a trouvé des mots d'enfants dans les recoins des doudous.
D'accord.
C'était, voilà, disons, avec des dessins de cœur. Voilà, on veut que on pense à la paix, on vous aime, machin et tout. Chose que moi j'avais jamais vue. Je fais de l'humanitaire depuis les années 80. Jamais j'ai vécu ce qu'on vient de vivre.
D'accord. Oui, Olena, justement pour ça, est-ce que vous attendiez vous à une telle affluence de dons, quoi, que ce soit médicaux, que ce soit numériques,
non.
Que ça,
non. Non, franchement, je ne pensais pas. Moi, ça arrive déjà à mon patron qui était génial. Je ne pensais pas du tout qu'il va réagir comme ça. J'ai juste demandé quelques jours partir chercher ma famille qui j'ai convaincu venir. Donc, il était en Pologne. Et quand ton patron il dit bah, « je t'ai prête le bus, on le charge », il a pris tous les frais, parce que, comme Claude dit, c'est gasoil, il faut payer.
Oui.
Il a fait le appel entre les clients sur Internet et les gens, ils ramenaient. Oui, moi, j'étais surpris. Et comme dit, c'est pas le matériel, comment, c'est le bon matériel.
Oui.
C'est pas quelque chose qui.
Oui,
bien sûr, il y avait quelques. Peut-être les gens vidaient la boîte à des pharmacies. Moi aussi, j'en suis sûre que j'ai une boîte qui périmait des médicaments qui traînent. Oui, mais ça a été avec le bon cœur. Mais en total, j'ai une amie qui me téléphone. Elle dit écoute, le matin, j'arrive, mon fils. Tout l'armoire au pied du lit. Il dit c'est quoi, ça va partir en Ukraine. Il a gardé juste 2-3 t-shirts. Il dit même moi j'ai pas besoin, eux ils ont besoin. Donc enfant qui est 4-5 ans qui réagit comme ça, c'est beau.
Ah oui.
Parce que je sais pas, peut-être c'est vrai que c'est une guerre inexplicable, c'est une guerre en plastique. Moi je l'appelle comme ça parce qu'elle vient de nulle part. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire non, c'est pas vrai, je vais avoir plein. Mais non, à cette époque-là, à 21e siècle, finir en guerre, je pense que non. N'importe où dans le monde.
Surtout qu'on nous avait dit que celle de 39-45, c'était la dernière. Donc,
ouais.
Depuis, il y en a eu quelques-unes. Et alors, vous rencontrez les Ukrainiens qui sont nus en France ? Enfin, qui sont nus en Haute-Loire, déjà ?
Oui, mais déjà, les gens que j'ai ramenés avec au transport berger. De l'autre côté, j'étais un petit peu déçu parce qu'on a ramené, on a eu le bus des 57 places, on a ramené 21 personnes, mais c'était très très tôt, je pense. Les gens, ils pensaient pas que ça va durer longtemps, ils voulaient pas partir trop loin. Mais de l'autre côté, je suis content, c'est les 21 personnes qui ont décidé de venir en France, qui savaient où y mettre le pied. C'est pas comme si on a tassé, venez.
Oui.
Oui, je rencontre pas qui c'est là. J'ai un petit peu. Je dis pas que j'ai fait exprès. J'ai pas mal de travail déjà avec ma famille et les Ukrainiens qui sont ici sur Craponne. Mais oui, ça m'est arrivé et je suis bien content. Là, samedi, on a fait le sortie petit train. C'est la première fois que j'ai fait aussi. En plus, il fallait traduire. Donc, des fois, il y a certains mots, tu cherches. Même au bout de 20 ans en France, tu cherches. Mais c'était convivial, c'était bien.
Et alors, on sait que. Moi, je me rappelle, parce qu'on sait que les gens des pays de l'Est sont très, très forts pour les langues, hein, puisqu'ils apprennent très vite. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais été dans les années, pareil, 70, en Roumanie. On avait des jeunes de nos âges, nous, on avait du mal à balbutier l'anglais. Eux, ils parlaient déjà 5 langues. Hein, donc, on a l'impression que vous avez plus de facilité pour apprendre les langues.
C'est pas qu'il facilite, c'est un petit peu notre système. Il y a anglais qui est très, très présent.
Ouais.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, on va dire, à partir de 12-13 ans, ils maîtrisent, on va dire, bien anglais. Après, là, on passe les tests. Les enfants ukrainiens, ils passent le test pour être distribués. Bon, distribués, c'est un grand mot.
Ouais.
Pour après intégrer les certains collèges, lycées et tout ça. Ouais. Donc, ils ont surpris à l'académie le niveau qui sait.
Oui, qu'ils ont
généralement,
déjà.
Bon, je ne dis pas qu'ils ont tous très très doués,
oui.
Mais le niveau général est, on va dire, un petit peu plus élevé qu'en France. Ils sont, on a, oui, facilité, oui, parce que les petits qui sont à l'école primaire ici ou là au public, mais déjà, voilà, ils utilisent très peu déjà de la traduction.
Ouais. Et justement, et comment réagissent les autres enfants, les Français, avec eux, parce que c'est quand même pour eux, c'est un peu nouveau, hein, ils reçoivent des...
Oui, mais ils sont contents.
Ils sont contents,
par
oui.
exemple, Madame Ray, elle a dit, ils attendent. Je leur dis qu'ils vont venir, c'est un petit peu tardé. Oui. Mais quand ils viennent, ils ont préparé les trucs, ils ont appris quelques bienvenus. Quand ils sont venus, ils ont dit de Braden, les petits mots, comment ça va en français, oui. ou en ukrainien oui. et tout ça. Donc, ils essayent. Bon, je pense peut-être un petit peu, il y a Chamarie, il y a un petit peu... Mais ça se passe bien. Au collège aussi, il y a deux dernières collégiens qui rentraient, en quatrième il n'y avait pas d'Ukrainien, oui. donc les quatrièmes ils étaient enchantés, ils disaient, ah, enfin on a nos Ukrainiens donc voilà, non je pense qu'il bon accueil, j'espère que ça va durer, j'espère que les Ukrainiens ne vont pas décevoir non plus. Après c'est voilà, chaque caractère, chaque personne a son caractère, ça passe ou ça casse, ça peut se faire aussi comme ça. Mais en intégralité, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour tout le monde que je connais. Un petit peu, je connais les familles des Saint-Pal, Craponne, un petit peu le Puy, un petit peu le lac du Boucher, tout ça. Voilà, ça se passe bien. Sainte-Vidal, c'est la famille Sainte-Vidal, qui le maire très, très investi, qu'il a pris une famille, qu'ils ont tout fait, la maison, tout, ils ont tout. Franchement, ils les gèrent, c'est génial.
Alors ces Ukrainiens qui sont venus, bon, ils sont partis parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils n'avaient plus rien. Et est-ce que on pense que quand ça va s'arrêter, ils retourneront chez eux quand même ?
Je pense que 80% des gens, oui.
Oui.
Bien sûr, ils vont certains rester, ça c'est sûr, parce que chacun a son histoire. Peut-être il y a certaines familles qui n'ont plus rien là-bas.
Ouais.
Et autant commencer ici, on va dire ce qu'il faut dire. La France, l'État, ils ont très, très bien aussi géré, très, très bien fait. Parce que les papiers et tout, on sait, pour les étrangers, c'est...
C'est compliqué.
Moi, je connais très bien ce système parce que je l'ai vécu. Pour les Ukrainiens, franchement, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ouais. Après, les certains qui sont déjà revenus. Mais il y a... Déjà, tout le monde, par l'instant, il n'y a aucune famille qui m'a dit « je veux le statut réfugié ».
D'accord.
Surtout pas, parce qu'ils veulent revenir.
Chez eux.
Après, est-ce que ça va être dans 3 mois, est-ce que ça va être dans 3 ans,
ça, ouais.
est-ce que ça va être dans un an ? Ça, chaque personne, il va décider. Mais par l'instant, 80%, 90%, c'est sûr qu'ils veulent revenir.
Et Fatima et
François.
Oui, à Saint-Pal, il y a Fatima, elle a 8 enfants. Il y en a 4 à la guerre et à son mari qui est à la guerre, et 4 enfants de moins de 18 ans ici. Et elle a fait venir sa fille de 21 ans pour la remplacer, et elle est repartie en Ukraine pour aller soigner les blessés. Donc ils n'ont pas perdu le contact avec l'Ukraine. C'est pas des... Je pense que c'est plutôt un trait d'union entre la France et l'Ukraine qui va durer pendant longtemps et qui est positif pour tout le monde, moi je crois.
D'accord. Ben oui, puisque il y a cette histoire d'OTAN, ils veulent rentrer dans... Enfin, c'est compliqué, on ne va pas faire de la politique.
Ben,
nous, on ne va pas faire de la politique.
Ouais,
hein.
oui.
On va laisser faire. Ce qui est bien, c'est... Oui, c'est trop compliqué pour nous. C'est bien parce que on va dire que... ce qui est important, c'est, voilà, c'est que les gens aient réagi. On va faire une petite pause, et alors Olena va nous dire, parce que moi je connais pas trop les chansons ukrainiennes, mais là j'ai trouvé une chanson folklorique qui s'appelle Chabelina. Vous connaissez ?
Oui.
Et bon, on va l'écouter. Oui, ouais. C'est les chœurs ukrainiens en plus, on sait qu'ils ont toujours des très beaux chœurs. Hein.
Поглядають на чужі жінки.
Voilà, donc cette chanson, alors Chabelina, alors en ukrainien, il paraît que ça veut dire, et c'est un sabre. Le nom de la chanson, on nous dit, tire son origine, cette arme portée par le soldat cosaque, en ukrainien cosaque, c'est avec deux cas, hein, et employé dans l'armée polonaise au XVIIe et XVIIIe siècle, le Zovnirik. Lorsqu'ils sont entrés en service, on leur a remis un sabre pour contrainte, ils n'avaient pas le droit. Voilà, c'est ça. Or, on a appris, j'aurais appris quelque chose au moins.
Oui, la Pologne et l'Ukraine, c'est toujours été bien.
Ouais, placé, très près.
Très près. Très... Et, le culturellement, on est plus ensemble, on va dire.
Ouais. Alors, Claude, donc, on a dit, tu t'es beaucoup occupé de, eh ben, de faire partir des convois. Alors maintenant, il y a trop de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait que les gens vous fassent passer?
Alors, actuellement, on collecte plus rien. On a fait une pause parce qu'il nous reste encore des choses à faire partir. On a à peu près l'équivalent de un ou voire deux semi-remorques de savon, de produits de première nécessité. Donc, on est en train de gérer ça avec la région Aura qui nous met des camions à disposition. Et également, on est parti sur... éventuellement faire un camion que de nourriture pour la frontière roumaine. C'est une demande de la ville de Almeu, qui est proche de Satu Mare, à la frontière ukrainienne. Et on a déjà travaillé avec eux sur d'autres projets. Et donc on a complètement confiance à ce qu'ils font. Là, déjà, ils ont reçu notre part à peu près, je crois, 3-4 camions de marchandises. Ils les stockent, ils les font passer en Ukraine par des petits chauds, moins des petits camions. Et là, ils nous ont demandé justement de l'alimentaire. Donc on va lancer un projet de récupérer directement dans les grands magasins des palettes de produits différents. Et on va voir pour les faire transiter, quoi. Voilà, quoi.
Olena, vous avez des nouvelles là de justement ce qu'on parle de nourriture. Est-ce que c'est compliqué? Les gens ont faim ou quand même ils arrivent à se nourrir?
Il y a certains, comme dans les grandes villes, surtout les grandes villes touchées, oui, c'est compliqué, très compliqué. Dans la campagne, c'est comme nous, ils commencent à faire le jardin, tout le monde dans le jardin, donc c'est plus facile. Je pense manque de nourriture, c'est plutôt Pologne. Parce qu'il y a énormément de réfugiés en Pologne. Et nous, justement, on était à Poznań. Il y a une association là-bas qu'elle m'a redemandé si c'est possible aussi faire la nourriture. Parce qu'elle a dit, c'est ce qui manque. parce que la Pologne, elle ne peut pas engloutir tous les réfugiés. En Ukraine, oui, il y a certaines régions qui sont très, très touchées. Par exemple, la ville qui était à côté de moi, qui était touchée, maintenant, il n'y avait plus d'électricité, il n'y a plus de l'eau.
Elle s'appelle donc, comment?
Kremenchuk. Oui. Et en plus, c'est un point stratégique. Il y avait une grande raffinerie qui n'existe pas, bien sûr. Ils savent qu'où taper. Au fur et à mesure, oui, je pense que fin l'été, vraiment, qui, ça peut manquer, surtout dans les villes. Parce que la campagne aussi, ils s'aiment, pas de souci, mais il y en a beaucoup qui, justement, il y a les fusils qui ne sont pas explosés, les missiles qui ne sont pas explosés, il y a déjà les accidents qui les paysans, ils labourent.
Oui.
Ils partent au ciel parce qu'ils n'ont pas vu. Moitié terre, ils ne sont pas cultivés.
D'accord.
Mais de l'autre côté, par exemple, tous les récoltes de l'année dernière, ils ont prévu les paysans là-bas à vendre à printemps, ça reste sur place, ils ne peuvent pas sortir et tout ça. Donc, c'est, je pense, fin l'été, plutôt, ça va être très compliqué.
Oui, parce qu'on savait que l'Ukraine... Enfin, on sait que l'Ukraine, c'était quand même... Au niveau du blé, c'était le grenier un peu de l'Europe. Hein.
Ouais.
Il y avait beaucoup de blé. Là, ça va devenir compliqué parce que...
Oui,
il ne peut plus exporter parce qu'en plus, Poutine, il bombarde les ports.
Ouais.
Donc,
ouais.
C'est vrai que c'est très compliqué, quoi.
Oui, c'est très compliqué. Après, oui, le président ukrainien, il a dit les régions qui ne sont pas touchées, on fait comme d'habitude, on prépare notre... pour récolte, pour semis, pour... Et il aide beaucoup, mais ça va pas suffire.
Le problème, c'est que les gens sont déplacés. Moi, j'ai été frappé, par exemple, la gare de Lviv. Il y avait 1 million de personnes. Donc, comment ils vont manger, ces gens-là? C'est-à-dire, il y a peut-être de quoi manger à 200 kilomètres, mais le problème qu'ils ont, c'est comment donner à manger là où les gens se sont regroupés énormément.
Oui.
Et c'est là où l'organisation des Ukrainiens est extraordinaire, parce qu'ils anticipent. Et ils savent aussi demander ce dont ils ont besoin, et ils sont capables de nous dire on veut pas ça, mais on a besoin de ça. Et donc on a des contacts.
Ouais.
Nous avons tous des contacts, des gens de confiance qui nous disent non, c'est pas la peine que vous envoyez ça, ou vaut mieux nous envoyer ça.
Oui, comme pour les vêtements, pour les... par exemple, ils ont demandé ce qui manque, les chaussures, les bonnes chaussures de sécurité, les chaussures de marche et tout ça. C'est pas la peine de ramener les claquettes ou les baskets, parce que pour les hommes qui au front, les baskets, il fait 2 jours.
Et alors, justement, dans votre famille, il y a des gens qui sont partis au front?
Pas dans ma famille, mais les amis. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y en a un copain de mon frère qui est décédé, qui est revenu dans le cercueil. Il y a les voisins. C'est un petit peu spécial. Il y a les bénévoles qui sont partis, mais c'est les bénévoles qui sont fait l'armée. Il ne prend pas n'importe qui non plus, parce que ça ne sert à rien.
Oui.
Après, il y a le pré-élection, ils sont appelés au fur et à mesure. Donc, les niveaux, les réservistes et tout ça. Et maintenant, il y en a beaucoup, comme ils disent, par l'instant, on arrête d'appeler parce qu'il y en a beaucoup.
Oui.
On n'a pas besoin. Après, il y en a pas mal, notamment mes frères, ils ont été ce qu'on appelle terre borona. C'est ce qu'on fait sur place. Il faisait les patrouilles. Maintenant, c'est un petit peu stoppé, mais au début, jusqu'à mi-avril, il y avait il y a 3-4 personnes qui faisaient les pauses, qui patrouillaient la nuit, qui faisaient les barrages un petit peu contrôlés, aider aux militaires pour restaurer l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de flux, beaucoup de gens qui partaient de Kharkov, il y en a énormément qui sont venus, tout ça, donc tout ça il faut gérer. Il y a beaucoup de gens qui sont installés dans le village de mes parents, qui viennent des autres villes qui n'existent plus.
Oui.
Voilà.
La difficulté, c'est de trouver les espions, parce que les Russes mettent des gens dans ces groupes-là. Et donc, et c'est normal, on est très surveillé en Ukraine, d'où tu viens, qu'est-ce qu'il y a, qui tu es, parce que parmi eux, il y a des Russes qui renseignaient, et c'est comme ça que les bombardements, ils sont très précis, parce qu'ils disent il faut bombarder à tel et tel endroit.
Maintenant, avec ce qu'on a, le téléphone, l'ordinateur et tout ça,
ils cherchent les espions tout le temps.
Oui, et puis on sait que Ils sont bien placés, que le président convient, qu'ils ont, hein, il sort du KGB, donc il sait faire. Hein,
et il parle la langue, il parle la langue. Donc,
C'est ça qui est plus difficile, parce que si tu parles le russe, tu peux être un Ukrainien de génération en génération. Ouais. Moi, je suis la dernière génération de l'URSS, on va dire. J'ai eu 10 ans quand il est cassé, l'URSS. Mais nous, c'était obligatoire à apprendre le russe. Tous les pays de l'URSS, c'était obligation. Donc, c'est on va dire les deux langues. Après, à la maison, avec les parents, en courant avec les copains, on parlait ukrainien. Mais ici, en Europe, bien sûr, il y a plusieurs... c'est pas les Russes, il y a les Géorgiens, il y a les Biélorusses, il y a les pays d'Asie. Mais on parle tous russe. Donc pour communiquer, oui, je suis d'accord, il était très présent. Mais maintenant, je pense, ce qu'il a dit, monsieur prêtre, Poutine, il a bien réuni le peuple. Donc oui, sa nationalisation, elle est bien en marche, mais c'est pas la mauvaise nationalisation.
Oui,
voilà, c'est plutôt on est fierté un petit peu, c'est vrai, vu la Russie, la grandeur de la Russie, vu le peur qu'il procurait à tout le monde. Et à la fin, un petit pays, on va dire à côté, c'est un petit pays qui résiste et qui va résister beaucoup.
Et qui va
parce
gagner.
Qu'elle va gagner et qui va avoir la niaque jusqu'à bout parce que, voilà, c'est notre territoire. On était bien, on n'a pas eu besoin d'être sauvés parce qu'on était bien. Certes, on a eu nos problèmes, mais ça a été nos problèmes.
Il y a déjà eu autant de morts russes depuis le 24 février qu'en 10 ans en Afghanistan.
Ouais.
Donc, si les Russes voulaient rester en Ukraine, ça ferait 1000 Afghanistan. Ils ne pourront pas. Les gens résisteront tout le temps.
Oui, alors, vous avez compris qu'on parle de l'Ukraine, bien sûr, puisqu'on a avec nous Olena Peter, Claude Lette et le père François Lefort. Juste demander à Olena, on a parlé des militaires. Vous avez une armée de métier ou comme en France, dans le temps, on allait faire son service?
Oui, il y a l'armée de métier à côté et il y a les jeunes qui font le service militaire entre un an et demi.
Ah, d'accord.
Voilà. Ouais, mais d'accord. Ça aussi, c'est pas tous, ça aussi, il y a la sélection.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Alors, bon, François, on n'a pas parlé de religion, mais. non, mais l'Ukraine est en majorité catholique, orthodoxe.
L'orthodoxe, mais le problème, c'est qu'il y avait l'Église russe et que le patriarche russe de Moscou est un oligarque qui a une fortune de 3 milliards de dollars personnels. Et qui a dit que que les Russes avaient raison d'attaquer. Alors ça, je peux vous dire que ça n'a pas plu aux orthodoxes et ni même aux Grecs, ce qu'on appelle les Grecs catholiques. Mais il y a tellement peu de différence entre un orthodoxe et un catholique. La seule différence entre un orthodoxe et un catholique, c'est le filioque. C'était est-ce que le Saint-Esprit descend du Père ou du Père et du Fils. Vous savez de quel côté on est? Personne ne le sait. Donc en fait, les orthodoxes et les catholiques, c'est vraiment très proche. Et là-bas, le fait que je sois prêtre était très important pour les gens et orthodoxes. Mais je vais pas faire un sermon. Il faut que les gens viennent à l'église pour entendre mon sermon.
Voilà. Il y a un catholique un petit peu côté polonais, tout ce qui est carpaté,
voilà.
C'est plutôt catholique. Autrement, on est orthodoxe et voilà. Et alors, très croyant.
Très croyant.
Voilà. Ouais. Les Ukrainiens se réfugient. On sait que dans des histoires comme ça, on a tendance à aller se réfugier un petit peu dans la religion. C'est un peu le cas en Ukraine?
C'est pas qu'on est réfugié. On est à l'URSS, il n'y avait pas de religion.
Ouais.
Après, on est bien revenu à l'église. Mais c'est pas le fanatisme, c'était normal.
D'accord.
C'est normal et on vénère, on fait on respecte, on va dire les fêtes, les certains coutumes. Mais je vais pas vous dire qu'on est fanatique, qu'on est
non mais
la religion elle est bien présente, mais il y a personne qui va vous casser les pieds avec.
Oui. Non mais ce que je voulais dire c'est que avec cette guerre, est-ce que ça a peut-être
ah oui,
ramené des gens?
Ah oui, bien
voilà.
sûr.
Voilà, ouais, c'est oui. ça que je voulais un petit peu dire.
On croit, on fait les prières, toujours on prie pour les... On sait tous à Mariupol, Azovstal, les combattants qui sont là-bas, qui résistent, ça fait 80, plus que 80 jours et tout ça. C'est, et on prie pour eux, on a toujours les prières. On est, oui, la religion toujours présente. Après, ramener, il ne fallait pas vraiment ramener parce qu'il était toujours là.
Oui, d'accord.
Voilà, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la mode.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
oui,
c'est
d'accord,
pas la mode.
Oui, d'accord, non, mais c'est ce que je voulais vous entendre dire un petit peu. Oui. François.
Moi, j'ai été épaté par la foi, justement, des gens. Même, ils viennent même à la messe ici le dimanche alors qu'ils sont orthodoxes, mais ils viennent... À nos messes ici. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est pas une foi sociologique, c'est quelque chose qui vient du cœur et c'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai trouvé en Ukraine, c'est une foi qui vient du cœur. Mais alors je peux vous dire qu'ils sont très choqués par le patriarche Cyril à Moscou. Là, c'est vraiment, c'est pas possible. Que
oui,
des...
bah,
il faut pas faire de la politique. Voilà. La religion et la politique.
On n'appelle pas à la guerre.
Ouais. Non, non, bah non.
Religion et politique, ça marche jamais bien.
Oui,
jamais.
Claude, alors toi qui aussi as fait pas mal de pays, alors là c'est un petit peu particulier parce que bon, quand on est à Haïti, qu'on est Perpète, on dit bon, ben, c'est loin, mais enfin l'Ukraine, c'est je sais pas, 2200
kilomètres. Je le sais.
Ouais. Donc c'est, on va dire, allez, en roulant bien, c'est une journée, une nuit de route, hein, donc c'est pas, enfin peut-être deux jours. Mais c'est quand même.
Avec les arrêts.
Avec les arrêts, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même près de chez nous. Hein. Il y a eu la Yougoslavie. Il y a eu, en Europe, c'est quand même particulier. Donc, on a tendance à réagir plus vite ou quoi, là?
Ben, disons, je pense que les gens ont eu peur dès les premiers jours que la guerre s'étende à d'autres pays plus proches encore.
Ah, d'accord.
Et je pense que la réaction qu'a eu le. Ben, l'Europe. Il n'y a pas, parce que les dons ne sont pas arrivés que simplement de la France.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà, donc c'est vraiment l'Europe. Je pense qu'il y a eu cette peur et c'est proche, quoi. Alors c'est vrai que quand il y a une guerre en Syrie ou ailleurs, quand des réfugiés arrivent, c'est pas pareil, quoi. Ouais, je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas pareil. Je ne parle pas du père Lefort. Pour lui, c'est pareil. Et pour nous aussi, qui sommes dans l'humanitaire depuis de nombreuses années. Là, c'était vraiment très proche. C'est vraiment très proche de chez nous. Quoi.
Ouais.
Voilà, trois jours de route en faisant des pauses. voilà, donc c'est là, c'est à portée de main. Quoi.
Ouais.
Quand on dit. Je sais pas si vous. Il y a quelques temps, dans les journaux, les gens étaient inquiets parce qu'ils voyaient passer des hélicoptères, des avions, comme tout à l'heure. Voilà, les gens sont inquiets. Quoi.
Ouais.
Et. C'est vrai que l'Ukraine ne fait pas la une des journaux, ne fait plus la une des journaux, parce qu'on est rentré dans une période politique avec des élections présidentielles. Là, on re-rentre encore dans une période d'élection. Mais les gens ont besoin de savoir tous les jours qu'est-ce qui se passe à l'Ukraine. Et on est tous, disons, un peu, j'allais dire, inquiets de ce qui se passe à Mariupol. Toutes ces villes qui sont bombardées parce que la Russie a besoin de ces points de contact pour continuer leur conflit, quoi. Et c'est vrai que la propagande russe en Russie, quand on regarde un peu, quand on fouille la presse, les gens, beaucoup se révoltent. Et on a vu la journaliste qui a brandi une banderole derrière la personne qui l'interrogeait. Et si vous voulez, moi je pense que oui, les gens sont inquiets, et toujours aujourd'hui, quoi. Je pense que
le bombardement, c'est vraiment l'arme des lâches. On ne voit pas les gens. Je ne sais pas comment dire. Un conflit face à face, c'est très triste, mais le bombardement, Mariupol, c'est vraiment l'arme des lâches. Le type qui jette une bombe depuis... Il est assis sur un fauteuil et puis il va tuer une dizaine d'enfants. Et je vais vous dire une chose. on ne dit jamais où sont les hôpitaux. Parce que si on dit, dans les autres conflits, dans Médecins du Monde, Médecins sans frontières, quand il y a un hôpital, on prévient les belligérants en disant il y a un hôpital, ils n'y touchent pas. Là, quand on dit il y a un hôpital, on est sûr que le lendemain, on sera bombardé.
D'accord.
C'est ce qui s'est passé oui à Mariupol, ils ont marqué les enfants, et c'est là qu'ils...
On est sûr.
Ouais.
Ouais. Et alors, justement, comment... Parce qu'on sait que, bon, Poutine, c'est un dictateur, hein, il faut le dire. Il maîtrise tout puisqu'il interdit, il a interdit à beaucoup de médias de. C'est lui qui fait un peu sa guerre, quoi. Je dirais, il dit, il faut faire la guerre parce que si, parce que ça. Et comment ils réagissent les Ukrainiens? Parce que comment ils arrivent à savoir quand même exactement ce qui se passe en Russie? Ça communique quand même entre Russes et Ukrainiens?
Non, pas trop maintenant. Au fur et à mesure, au bout des 3 mois, je pense que ça a beaucoup estompé parce que justement, la famille là-bas, il y a les fils qui rognaient la mère qui est en Ukraine.
Ouais.
Lui, il est à Moscou. Il n'a jamais téléphoné pour savoir, maman, comment tu vas.
Ouais.
Si ça arrive, mais je suis d'accord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vérité des deux côtés. Je ne dis pas que les Ukrainiens sont mieux que les Russes. Les Russes, c'est bien ciblé, mais dire toute la vérité sur la guerre, je pense que ça va être choquant des deux côtés.
Ouais.
Mais les Ukrainiens plus ouverts, plus immondes, justement. Le plus choquant, ce n'est pas les Russes, parce que les Russes, ils sont quotidiennement, ils ont été préparés pour cette guerre dans leurs médias, dans la presse et tout ça. Ce n'est pas venu comme ça. Ils ont parlé qu'on était méchants, jusqu'à on est devenu méchants.
Ouais.
Ce qui est choquant, c'est les Russes qui habitent ici en Europe, qui ça fait comme moi, qui est déjà détaché, parce que moi ça fait 20 ans que j'ai parti en Ukraine, j'ai combattu beaucoup, mais c'est mon pays de mon enfance, pas comme j'étais adulte, j'étais déjà en France, mais j'ai combattu beaucoup, j'ai fait tout mon possible, j'ai essayé, voilà. Mais les Russes aussi, qui ça fait des années qu'ils vivent ici, et qui sont pro-russes, on va dire comme ça, et qui sont d'accord avec ce qui se passe. Moi, j'ai quelques copines. À partir du 24 février, je n'ai pas entendu leur voix.
D'accord.
J'ai pas, voilà, donc, c'est, comment on dit, dans le malheur, on voit qu'il est les vrais amis.
Ouais.
Mais c'est choquant, parce que tu vis en Europe, tu sais comment ça se passe, tu vis en démocratie, vraiment en démocratie, et tu dis que le Poutine, le régime de Poutine, il a raison.
Mais parce qu'ils ont peut-être peur ici aussi.
Non.
Il y a quelques oligarques qui ont été tués.
Non, je ne sais pas.
Ou
je
pour
sais
leur
pas,
famille.
Il y en a beaucoup qui sont... Ils sont aussi le télé russe ici.
Oui.
Même si, par exemple, moi, personnellement, ils connaissent ma famille. Mais là, à partir des 24, juste pour être gentil, tu dis comment tu vas.
Oui.
D'accord,
oui.
Tu ne demandes pas comment va ma famille, tu t'en fous. Mais demande au moins comment tu vas. Non. Donc, il y en a beaucoup qui... C'est un petit peu choquant. Vraiment, je ne dis pas tous.
Oui.
Mais c'est choquant, le nombre de personnes. Les Russes, ils ne peuvent rien. Ils sont bloqués, ils sont... Voilà, je pense que si, il y a les révoltes de plus en plus, mais pas assez.
Ouais.
Pas assez, et ça ne va pas se révolter tout de suite, parce qu'il y a grosse... Parce que c'est, du côté russe, c'était bien planifié. Donc, ils savent gérer, ils savent ça, comme vous dites, il est des KGB, ils savent très bien.
Ouais.
Mais au fur et à mesure, j'espère qu'ils vont comprendre. Bon, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont dire non, c'est n'importe quoi, et ils sont foutus. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que le peuple russe, il est condamné par tout le monde, et je ne sais pas si tous les Russes, ils ont choisi ça.
D'accord,
voilà.
Ouais. Et vous pensez y retourner quand même, voir vos parents
Mais ma
en
mère,
Ukraine.
Il est là,
à
il
votre
y a
maman
mon frère
là.
Et mon père qui est resté là, ouais. Oui. Déjà, on a allé avant la guerre tous les ans. On a allé avec plaisir. Voilà. Pendant les vacances, si je peux faire autre chose, d'autres voyages et tout ça, si ma santé le permet, je veux bien. J'étais en stop à 2 mois. Donc, voilà, je ne pouvais pas grand-chose à faire. Mais j'ai géré les Ukrainiens ici. C'est déjà pas mal.
Oui.
Si je m'écoute, j'ai parti assez vite.
Ouais. Il y a des demandes de gens qui voudraient
venir.
Moi, j'en ai, qui se sont regroupés à Lviv, à l'Est, mais qui voudraient venir. Il y en a, on trouverait encore maintenant.
Voilà.
Sans compter ceux qui sont en Pologne et qui sont
oui,
aussi...
Hein, mais oui.
Voilà, ben cette émission, hein, donc on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, mais on était là
Slava
pour ça.
Ukraine.
Ouais. Ah ben moi je parle pas l'ukrainien.
Slava
hein.
Ukraine. Ça veut dire quoi?
Bon alors, voilà, hein, vous avez vu les avis de d'une Ukrainienne hein, qui vit en France, mais qui est quand même qui a vécu là-bas en Ukraine, Claude, lui. C'est pareil aussi. Il a été dans beaucoup de pays, le Perlefort aussi. Donc c'est des gens qui ont un regard peut-être bah, plus ouvert hein, que les Russes. Hein. Les Russes, c'est vrai que, comme disait Olena, on les a préparés depuis peut-être un an, deux ans, à ce qu'on va envahir l'Ukraine. Quoi. Bon, il avait déjà pris la Crimée. Hein,
Sans trop demander,
mais il ne demande jamais, hein, lui. Donc c'est déjà comme ça. Eh bien, avant de se quitter, on va... Alors, je ne connais pas, mais ça, on va l'écouter. C'est une chanson pour l'Ukraine. Donc, je ne sais pas qui c'est qui l'a faite, mais on va le savoir tout de suite. Donc, chanson pour l'Ukraine, ben, c'est vrai, quand même, comme on disait, les gens se sont beaucoup mobilisés, ça, c'est quand même pas mal.
Regarde l'Ukraine vit son pire cauchemar. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Le monde n'a pas besoin de ça. C'est bien triste d'en arriver. C'est la peur et l'angoisse. Difficile de vivre sous un toit. Et le bruit intense des soldats. Oh, 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 oh. On ne peut pas laisser ça comme ça. Regarde ça, le monde est vraiment pas normal. Des gens avec trop de pouvoir. On devrait ne jamais voir ça. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Et ça, ce n'est pas normal. Oh, 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 oh. Et ça, ce n'est pas normal.
Voilà donc ben une chanson pour l'Ukraine, hein, pour terminer cette émission. On va remercier Olena Peter hein, d'être venue, nous avoir parlé de son pays, hein, et puis Claude Led, bien sûr, avec son association, et le père François Lefort. Alors chacun un mot de conclusion. François disait, on ne fait pas des pronostics, hein, ce n'est pas le PMU, là, mais les Ukrainiens vont gagner, ben, on l'espère, hein, puis surtout que cette guerre s'arrête, parce que c'est quand même terrible. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, la guerre, ben, ça tue aveuglément, hein, surtout avec les bombardements, il y a beaucoup d'enfants qui restent. Donc François, en conclusion.
Siècle pour gagner de la terre, alors qu'on a une époque au 21e siècle où ce qui est important, c'est l'influence. Et la Russie a perdu de l'influence. Maintenant, ils sont ridiculisés et les Ukrainiens ont gardé l'influence. Personne ne savait où était l'Ukraine avant et maintenant, on sait où c'est. Donc, Slava Ukraine.
Olena.
Ben, moi, je veux finir avec les mots qui maintenant tout le monde dit en ukrainien, parce que j'espère que les Ukrainiens aussi pourront écouter ça.
Oui.
Dobrý večer, mes Ukraine. Bonjour, bonsoir, on est d'Ukraine. Et Slava Ukraine, et Heroyam Slava. Maintenant, c'est les meilleurs mots qu'on peut dire. Et j'espère, comme on dit, Ukraine, elle va gagner. Ukraine, oui, je vais rester, et ça va être dobre.
Voilà, il va falloir que je me mette à l'ukrainien. Moi, je ne suis pas bon. Hein. Et Claude?
Mais moi, je dis simplement que la guerre s'arrête. Quoi.
Oui, surtout.
Voilà.
Oui.
Voilà, quoi. Ouais. Et pas que, hélas, pas qu'en Ukraine.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est au 21e siècle. On a
parce que la fin. Dans le monde, ça va cet été, il va y avoir des millions de morts parce que le blé n'arrivera pas dans les pays qui vivent du blé d'Ukraine et de Russie.
Voilà, mais écoutez, merci à tous les trois. C'était important de parler de ça puisque nous, on a des Ukrainiens qui sont venus en Haute-Loire, hein, particulièrement, et autour de chez nous, de Craponne, Saint-Paul, un peu partout. On espère que, ben, je sais qu'ils sont bien reçus, puis qu'ils vont s'intégrer, on n'a aucun souci. Et je pense qu'on parlait de la langue. Si on recommence une émission en septembre, je pense qu'on aura des petits Ukrainiens, même des grands avec nous, et qui parleront français comme vous et moi. J'en suis à peu près certain. Merci à tous les trois.
Merci.
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui parlait de l'Ukraine avec Olena Peter, qui est elle-même ukrainienne, qui vit en France, Claudelette des deux AIP, et puis le père François Lefort. Cette émission est diffusée le jeudi à 15h et rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Like my